Dans la clé de la voix, nous célébrons le langage universel de la musique. Tout au long du mois de mai, rendez-vous au Théâtre du Châtelet pour le festival « Le Châtelet fait son jazz ». Retrouvez d'anciens invités du podcast, tels que Thomas Dutronc, Naïma Naouri et bien d'autres merveilleux artistes. Venez écouter, danser et ressentir la magie du jazz jusqu'au 27 mai au Théâtre du Châtelet à Paris. Du swing au bebop, laissez-vous transporter par des performances live exceptionnelles où mélodie et rythme fusionnent à la croisée des mondes. Réservez dès maintenant vos places pour savourer la liberté de la musique jazz. Toutes les informations sont à retrouver sur châtelet.com. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolaigne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocale et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. J'ai le plaisir de recevoir la chercheuse sur la voix au CNRS, Maëva Garnier. Dans ce 25e épisode, nous parlons des pratiques vocales à forte intensité qui peuvent être à risque pour la voix. Nous commençons par le belting. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes qui utilisent cette technique ? Comment belter sans se faire mal et bien conscientiser le passage entre la voix de tête et la voix de poitrine ? Nous parlons également de la voix des enseignants. Oui, car les enseignants, en comparaison avec d'autres professions, sont beaucoup plus exposés aux troubles de la voix qui peuvent avoir un impact négatif sur l'enseignement. Nous terminons cet épisode avec la mystérieuse voix de sifflet. J'avais d'ailleurs ouvert une FAQ sur mes réseaux sociaux où je vous invite à me rejoindre si ce n'est pas encore fait, pour découvrir les coulisses du podcast. Dans cet épisode, Maëva Garnier répond à vos questions avec sa casquette de scientifique et aussi de chanteuse pour avoir une meilleure compréhension de la voix et de son utilisation. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Maëva.
Bonjour Clémentine.
Merci d'être avec nous. Alors tu explores la voix parlée et chantée. Qu'est-ce qui t'a décidé à orienter une partie de tes recherches sur l'appareil vocal ?
Plusieurs choses en fait. C'est vrai que moi j'ai toujours été aussi personnellement musicienne, donc j'ai commencé à venir à la voix, mais par d'abord l'acoustique musicale. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur l'acoustique musicale, et donc ça m'a amené du coup de fil en aiguille à travailler sur la voix chantée, puis aussi sur la voix parlée. Donc voilà, c'était parce que à la base j'étais plutôt musicienne pianiste, on va dire, et puis cette passion à la fois pour les sciences et pour la musique, ça m'a amené vers l'acoustique musicale, puis ensuite, du coup, vers l'étude de la voix.
Tu as étudié la technique du belting. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consiste le belting et pourquoi l'utiliser ?
Donc le belting, on va dire, c'est un peu différent pour les hommes et les femmes. Je vais peut-être commencer par peut-être expliquer un petit peu pour les femmes, pour lesquelles c'est plus évident, entre guillemets.
Oui.
Alors en fait, chez la plupart des femmes, technique classique, pour les sopranes, et c'est un peu moins vrai pour les altos, mais pour les altis, mais en tout cas pour les sopranes, on a tendance à privilégier uniquement ce qu'on appelle la voix de tête, ou ce qu'on appellerait d'un point de vue scientifique le deuxième mécanisme laryngé. Donc dans ce mécanisme laryngé, c'est une voix qui est un peu plus légère. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être puissante, etc. Mais elle est quand même un peu plus légère de timbre que celle de la voix de poitrine, du coup qui correspondrait d'un point de vue scientifique au premier mécanisme laryngé. Donc dans la technique classique, on privilégie vraiment cette voix de tête chez les femmes. Et donc, chez tout un chacun, on peut faire par exemple un glissando, c'est une sorte de petite sirène, du bas à l'aigu de notre tessiture. Si on fait... Voilà, là je fais une petite sirène. Eh bien, chez tout un chacun, on va entendre un moment où il va y avoir une sorte de petit saut de hauteur de voix, une sorte de petite rupture de la voix. Et du coup, ça correspond justement à ce passage entre notre voix de poitrine et notre voix de tête. Donc, dans la technique lyrique, le principe va être d'essayer de descendre au maximum ce passage pour n'utiliser que la voix de tête. Alors que justement, dans le belting, le principe va être au contraire d'essayer de monter au maximum ce passage, donc ce premier passage, de façon à n'utiliser que la voix de poitrine et emmener la voix de poitrine vers l'aigu. En classique, il y en a qui appelaient ça poitriner, par exemple, chez des femmes. Et là, du coup, dans la technique des musiques actuelles, donc maintenant, on appelle ça le belting. Et du coup, c'est pas seulement lié que à l'usage du mécanisme 1 ou de cette voix de poitrine, c'est aussi associé à d'autres techniques à la fois résonancielles. Donc, quand je dis résonancielle, je veux dire articulatoire. Donc, c'est tout ce qu'on fait avec nos lèvres, notre mâchoire, notre langue. Et puis aussi les techniques respiratoires. Donc, d'un point de vue respiratoire, le belting va nécessiter vraiment un soutien abdominal diaphragmatique important, sans quoi vraiment les cordes vocales peuvent être mis en danger, parce que du coup c'est un mode de phonation qui nécessite du coup beaucoup de pression qu'on appelle sous-glottique, de pression sous le larynx. Et pour pas que du coup ce soit tout le larynx qui fasse cet effort d'accolement, il faut vraiment qu'il y ait du coup ce soutien diaphragmatique et abdominal en dessous pour vraiment aider le larynx et le protéger.
Oui.
Cette technique du coup plutôt résonancielle, articulatoire, ou dans d'autres techniques aussi, comme les voix bulgares par exemple, qui du coup sont aussi des voix qui utilisent cette voix de poitrine, avec un timbre légèrement différent, mais c'est quand même le même principe. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que ces chanteuses ajustent la deuxième résonance de leur conduit vocal sur la fréquence de vibration de leurs plis vocaux. C'est associé au mouvement d'avancée et de recul de la langue dans la cavité orale. Ces chanteuses, en fait, elles ajustent la première résonance de leur conduit vocal sur le deuxième harmonique de leur voix. Pour faire ça, la première résonance du conduit vocal est associée plutôt au mouvement de la mâchoire et donc de l'ouverture de la bouche en général. Et donc, ces chanteuses vont ouvrir de plus en plus la bouche au fur et à mesure qu'elles montent un peu dans les aigus, mais pas aussi aigus que les sopranes, mais aigus au-dessus de ce premier passage.
Mmh.
Et ça, ça va leur permettre d'ajuster la fréquence de résonance de leur première résonance du conduit vocal sur ce deuxième harmonique, c'est-à-dire le double de la fréquence de vibration des plis vocaux. Donc par exemple, si elles sont en train de faire un La 440, donc voilà, c'est tout à fait une fréquence à laquelle on peut belter, eh bien du coup, à cette fréquence-là, elles vont ouvrir très largement la bouche, qui va leur permettre d'ajuster la fréquence de leur première résonance à 480. Donc 480, c'est-à-dire deux fois 440. Et ça, du coup, ça va permettre la production de ces sons à très forte intensité avec le mécanisme 1. Donc voilà, pour produire le belting, il faut à la fois le mécanisme 1, c'est-à-dire la voix de poitrine, il faut la technique respiratoire de soutien fort et cette technique d'ajustement articulatoire résonantiel de la première résonance sur le deuxième harmonique de la voix.
Oui. Moi, c'est vrai qu'en tant que coach vocal, je refuse de faire travailler le belting s'il n'y a pas le soutien en place, s'il n'y a pas un bon placement au niveau des résonateurs, parce que j'ai eu beaucoup d'élèves qui venaient d'écoles de comédie musicale avec des nodules. The scars. que en étudiant le belting, tu as constaté que les problèmes de justesse étaient plus accentués si c'était déjà le point faible peut-être du chanteur?
T'avoue que j'ai jamais vraiment observé. Alors si ce n'est que bon, il y a quand même un forçage. Souvent, chez des non-experts, en tout cas, chez des professionnels, voilà, c'est maîtrisé et il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci de justesse non plus, en général. Mais chez des chanteurs qui sont plus amateurs, la seule chose que je pourrais te dire, c'est qu'effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même plus de forçage dans cette technique-là. Et du coup, quand on force, des fois, on n'atteint pas tout à fait la cible, entre guillemets, qu'on voudrait. Donc, c'est peut-être ça qui explique pourquoi, toi, tu as cette impression de plus de fausseté dans le belting.
Voilà, chez des chanteurs amateurs, et c'est vrai que chez certains, ça va être un peu plus faux. Il faut vraiment bien replacer le son avant de pouvoir mettre le belting et que ce soit vraiment bien placé. Sinon, ça a tendance, je trouve, à être légèrement bas et légèrement faux, peut-être parce qu'ils envoyaient beaucoup plus de son et peut-être qu'ils s'entendaient moins.
Ouais, et après, il y a aussi peut-être la question de la voyelle.
Aussi, ah, ça, c'est vrai que ça joue énormément.
Parce que la voyelle joue pas mal sur la perception de la hauteur de voix. Souvent, pour produire le belting, t'as quand même une articulation qui est très ouverte. T'es pas du tout dans la couverture, quoi, à l'arrière de la gorge.
Mm-mm.
Donc, du coup, t'as une voix quand même qui est extrêmement ouverte. Et ça, ça pardonne pas, en fait, dans la perception de la justesse. Ça peut vite sembler criard ou un peu faux, en fait. Et puis aussi, un deuxième élément de réponse, c'est peut-être aussi lié au vibrato. C'est-à-dire que, par exemple, dans la technique lyrique où il y a des vibratos qui sont très très amples, en fait, ça couvre aussi, ça masque un petit peu des certaines faussetés parce que du coup, la perception de la justesse, elle est plus, tu vois, sur une gamme de fréquences qui est un petit peu plus modulée, un peu plus large. Alors que quand tu as un son qui est vraiment droit, comme c'est souvent le cas quand même dans le belting, les sons beltés, ils sont vraiment droits, quoi. Il n'y a pas de vibrato souvent.
Oui.
Du coup, là, ça pardonne pas non plus, quoi. C'est-à-dire, si tu n'as pas exactement la bonne hauteur, il n'y a plus de vibrato pour te sauver, quoi.
Et en tant que scientifique ou en tant que chanteuse, tu aurais des exercices à conseiller pour travailler le belting?
Alors, en tant que scientifique, non, je vais pas trop m'avancer là-dessus, si ce n'est, les seules choses, que je vois qui sont vraiment indispensables, c'est comme je disais, vraiment travailler avant toute chose le soutien. Et puis y aller vraiment très progressivement, c'est-à-dire puisque la technique de belting consiste finalement à étendre cette transition naturelle du mécanisme 1 au mécanisme 2, donc au-delà un petit peu de là où on aurait tendance à basculer naturellement. À mon avis, c'est vrai qu'il faut vraiment y aller très progressivement. Il faut être très patient avec ça. Il ne faut pas chercher à aller faire des dos ou des rés dans le haut de la clé de sol directement pour une fille, quoi. Même si, les chansons qu'on vise, c'est comme ça. Le passage naturel d'une soprane, c'est quand même plutôt sur le mi-fa du bas de la clé de sol. Donc, on est quasi à une sixte, on va dire, de la target, par exemple, d'un do ou d'un ré aigu. C'est pas en un jour qu'on va y arriver, quoi. Là, c'est vraiment aller directement se faire un nodule que de vouloir y aller directement. Donc, la seule chose que je conseillerais, c'est vraiment de chercher à y aller progressivement, consolider vraiment la musculature laryngée et apprendre d'abord ces techniques de soutien respiratoire et rechercher du coup aussi cet ajustement résonantiel, peut-être des fois en cherchant, en allant vers par exemple la voix un peu criée ou la voix un peu projetée. Du coup, on va chercher, par exemple, en travaillant comme si on appelait quelqu'un à distance, comme s'il était tout au long du jardin, à chercher cette résonance dans la voix criée, qui est la même finalement que celle qu'on va mettre en place dans la voix de belting. Ça peut être des exercices effectivement, et qui vont être bénéfiques d'ailleurs aussi pour la prise de parole en public ou quand on est enseignant pour appeler un élève dans la cour de récré, etc. Donc c'est de toute façon des exercices de recherche de résonance qui peuvent être utiles aussi pour la voix parlée.
Oui.
Chez les hommes, c'est un petit peu différent parce que, en fait, les hommes, le chant classique, ont déjà tendance à utiliser plutôt le mécanisme 1, leur voix de poitrine. Donc, du coup, dans le belting, ils vont aussi utiliser toujours le même mécanisme laryngé. Mais par contre, du coup, ils vont l'étendre vers l'aigu. Pareil, là, comme le belting chez les femmes, c'est quand même... Déjà, il n'y a pas le changement de mécanisme laryngé comme il y a chez les femmes. Donc là, c'est plutôt une question d'ajustement résonantiel qui va différer entre la voix lyrique et la voix de belting, où chez les hommes, la voix de poitrine lyrique va être plutôt associée à ce qu'on appelle de la couverture, c'est-à-dire plutôt ce que des scientifiques aussi appellent un pavillon inversé, c'est-à-dire plutôt des lèvres un peu fermées, un peu comme un ou par exemple, et par contre un pharynx très dilaté à l'arrière, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le pavillon inversé. Donc ça, c'est vraiment la couverture avec un sentiment de patate chaude dans la bouche, quoi. Oh, voilà.
Oui.
Et puis, à l'inverse, dans le belting, c'est vraiment l'inverse, c'est le pavillon, quoi, qui va être recherché, avec cette fois plutôt un pharynx plutôt constrit, enfin plus resserré, et par contre, une ouverture aux lèvres et à la mâchoire très importante. Et aussi, bah, du coup, on l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi, une des grosses différences, c'est le vibrato aussi, qui va être du coup bah, plutôt marqué et ample en technique lyrique et qui va être quasi inexistant ou en tout cas beaucoup plus réduit en technique actuelle ou dans le belting. Mais en tout cas, on observe aussi chez les hommes dans le belting des ajustements résonantiels. Du coup, cette fois, c'est un peu plus divers. C'est pas uniquement la première résonance sur le deuxième harmonique, mais ça peut être du coup sur des harmoniques plus élevées. Mais il va y avoir quand même toujours cette ouverture de la mâchoire très importante avec ce pavillon ouvert qui va viser en tout cas l'ajustement de la première résonance, de la fréquence de la première résonance sur un des premiers harmoniques de la voix.
Mmh.
Voilà. Mais du coup, d'une certaine façon, il y a quelque chose quand même d'assez semblable dans le belting avec du coup ce qu'on appelait le registre de tête chez des ténors, des ténors lyriques, donc qui vont vraiment pousser vraiment leur voix vers l'extrême aigu, mais en pleine puissance, donc sans passer en voix de fausset. C'est comme Roberto Alagna, enfin voilà, tous ces grands ténors qui montent vraiment dans l'aigu. Il va y avoir une technique quand même qui va être assez proche de celle du belting, avec quand même le vibrato qui change beaucoup entre les deux, quoi.
Mais d'ailleurs, j'ai une question. C'est la première fois que je fais ça, hein, de
oui.
proposer des questions sur les réseaux sociaux. C'est un chanteur, il fait plusieurs mois qu'il travaille le belting et il bloque toujours aux mêmes notes. Entre le mi et le fa, sa voix se casse sur les a. Elle se brise totalement. Et après, il a son registre de voix de tête avec des belles notes. Mais entre le mi et le fa, sa voix est complètement cassée.
C'est tout à fait normal. Mi-fa, c'est le passage à la fois chez les hommes comme chez les femmes. Mi-fa, c'est vraiment le passage le plus classique entre la voix de poitrine et la voix de tête. Du coup, bah, c'est ce qu'il entend par la voix qui craque ou la voix qui se casse. C'est vraiment ce passage. Alors, d'un point de vue physiologique, peut-être ça peut intéresser les auditeurs. En fait, ce qui se passe quand on monte en hauteur dans la voix de poitrine, c'est que on contracte de plus en plus le muscle à l'intérieur du pli vocal, donc qui s'appelle le thyroaréthénoïdien. Et en fait, il y a un moment où on peut plus le contracter davantage. Et à ce moment-là, en fait, le muscle va brutalement, du coup, bah, se décontracter et se découpler de la corde vocale. Et ensuite, dans le mécanisme 2, il n'y a plus que vraiment la partie superficielle du pli et plus le muscle à l'intérieur qui vibre. Il y a juste la petite partie muqueuse du pli vocal qui va vibrer dans le mécanisme 2. Et donc, ce brusque... Enfin, craquage de la voix ou comment il a dit, la voix qui saute, je sais plus comment.
La voix est toute rocailleuse et qui perd de son amplitude vocale, qu'elle ne répond plus.
Voilà. Et ben, en tout cas, le moment où ça saute vraiment la voix, ça craque, ça correspond vraiment à ce moment où le muscle, l'intérieur de la corde vocale se découple de la structure et qu'il y a vraiment plus que la petite partie superficielle du pli vocal qui vibre. Et donc, du coup, voilà, c'est un travail vraiment, comme on a dit tout à l'heure, qui vient aussi avec le soutien, vraiment le soutien respiratoire et aussi avec la technique résonantielle et articulatoire qui va permettre du coup de gérer ce passage. Mais c'est vraiment complètement normal à la fois chez les hommes et chez les femmes. C'est aussi ce que les hommes ressentent au moment de la mue lorsqu'ils sont jeunes adolescents. Et que du coup leur voix va craquer comme ça, c'est justement cette oscillation entre le mécanisme 1 et le mécanisme 2. Et ils doivent apprendre justement à trouver des ajustements de leur respiration, leur larynx, leur articulation pour que tout ça fonctionne ensemble.
Oui, là ce qu'il avait trouvé, c'était la couverture de rendre le son un peu plus arrondi, un peu haut, mais il avait l'impression de tricher, mais
oui, alors effectivement, oui, du coup, c'est aussi ce que Husson appelait l'impédance ramenée sur le larynx, quoi, et que ces sons vraiment couverts vont permettre du coup d'avoir des échanges énergétiques plus facilités entre le conduit vocal et la source glottique et le larynx, quoi. Et donc, c'est vrai que ce type d'articulation était préconisé justement, effectivement, parce que ça facilite effectivement l'émission vocale, notamment du coup dans des zones un peu comme ça difficiles à gérer. Du coup, voilà, la couverture va vraiment aider à gérer les passages. Mais effectivement, le problème, c'est que dans certaines techniques vocales, pour des raisons esthétiques, on n'a pas forcément toujours envie d'avoir ce son couvert. Et donc, du coup, ouais, va falloir renforcer aussi, pas seulement par la couverture, mais aussi par le soutien respiratoire. Et voilà, et chercher avec patience à ce que, du coup, cette transition se lisse avec le temps.
Oui, c'est parce que ça peut être long. C'est vrai qu'il travaille depuis septembre. Mais...
Oui, c'est long. Hein.
Nous allons écouter un extrait de Roberto Alagna dans La Bohème de Puccini.
Il y a un sujet que je n'ai pas encore abordé sur le podcast et qui mérite vraiment de l'être, c'est le forçage vocal et les troubles de la voix de l'enseignant. Tu donnes des conférences de prévention à ce sujet, notamment avec la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale.
Oui, tout à fait. Ça fait depuis ma thèse en fait que je travaille sur le sujet, donc depuis 2004. Donc effectivement, le forçage vocal, c'est vraiment... un problème très sérieux de santé publique et pour les personnes qui utilisent leur voix dans leur métier. Les enseignants, c'est la population qui utilise particulièrement sa voix comme outil de travail. Et dans ces enseignants, en fait, il va y avoir un bon tiers des enseignants qui vont développer au cours de leur carrière des troubles de la voix. Quand on parle de troubles de la voix, c'est quelque chose d'assez large qui peut aller, on va dire, d'un simple, entre guillemets, inconfort, c'est-à-dire la sensation de ne plus pouvoir moduler sa voix, d'avoir une perte de puissance... de ne plus pouvoir varier la hauteur de sa voix, etc. Se sentir un petit peu entravé ou handicapé dans sa communication. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller à l'altération du timbre de la voix avec une voix qui devient, par exemple, de plus en plus soufflée ou de plus en plus éraillée, etc. Ce qui va aussi avoir un impact sur la pédagogie. On sait maintenant que... ces timbres-là de voix, du coup, vont avoir des impacts sur la transmission de connaissances avec les élèves. Et puis, ça peut encore aller encore plus loin. Ça peut aller jusqu'à, du coup, des lésions au niveau des plis vocaux. Donc, la lésion principale chez les enseignants, c'est le nodule. Mais voilà, il peut y avoir d'autres lésions plus rapides, plus ponctuelles, comme des polypes ou des œdèmes. En tout cas, voilà, toutes ces lésions peuvent amener à notamment des épisodes d'aphonie, c'est-à-dire quand on perd sa voix de façon ponctuelle ou très récurrente. Et ça, c'est vraiment, vraiment très handicapant pour les enseignants qui ne peuvent plus, du coup, assurer leurs fonctions convenablement et qui sont, du coup, en arrêt de travail de façon répétitive, quoi.
Et à quel moment de la vie professionnelle la voix est-elle la plus impactée ?
En fait, chez les enseignants, en tout cas, on voit que les 5 premières années d'expérience sont cruciales. Donc, c'est dans ces premières années que va se développer pour la plupart un trouble. Après, quand les premières années d'expérience sont passées, en général, ça ne veut pas dire que le risque n'existe plus. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même dans les premières années d'expérience qu'il va y avoir le plus de risques. Et puis après, il y a d'autres choses. Bon, il va y avoir par exemple la ménopause chez les femmes qui va par du coup les changements, les modifications hormonales amener une certaine fragilisation de la voix. Donc ça peut être aussi une étape difficile à gérer durant laquelle il peut y avoir de nouveau un risque accru. Et puis bah sinon voilà, après c'est plutôt lié à la situation personnelle, c'est-à-dire lorsqu'il y a des épisodes de stress intense ou familiaux, des émotions intenses liées à par exemple un deuil, voilà des choses difficiles à gérer, bien ça va être aussi des moments de la vie où la voix va être plus à risque et où ça coïncide malheureusement souvent aussi avec le développement de troubles.
Est-ce que vous avez trouvé un moyen d'anticiper ou de prévenir des troubles de la voix ?
Alors bah oui, c'est une grande question. Donc il y a pas mal de recherches là-dessus et puis effectivement les formations de prévention visent justement à trouver aussi les meilleurs conseils. Déjà il n'y a pas beaucoup malheureusement de prévention qui est donnée encore. Donc en formation initiale il n'y a pas de cours sur la voix qui est donné aux enseignants. Et donc après, dans leur formation ensuite, tout au long de la vie, les enseignants peuvent bénéficier de formations parfois, mais elles sont toujours très courtes, quoi. Il y a voilà un jour, deux jours, voilà maximum. Donc il faut vraiment trouver les meilleurs conseils qui vont être les plus faciles à appliquer, les plus durables dans le temps. Et effectivement, donc il y a ce qu'on appelle la prévention indirecte, qui est plutôt déjà la compréhension des mécanismes de production de la voix, de la physiologie, etc. Donc la plupart du temps, les enseignants ou enfin d'autres professionnels de la voix ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne et enfin l'organe lui-même. Donc souvent déjà la prise de conscience et puis le ressenti ensuite dans leur phonation, en touchant leur corps, en sentant cette vibration, etc. Donc toute cette compréhension va quand même déjà amener souvent enfin une prise de conscience et une amélioration du problème. Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu la prévention du coup indirecte, avec aussi des conseils sur l'hygiène vocale, ce qu'on appelle l'hygiène vocale, donc notamment des conseils qui peuvent paraître tout simples, mais que pourtant il faut quand même de la motivation et de l'autodiscipline pour arriver à les mettre en place, comme par exemple boire régulièrement, faire effectivement des pauses vocales dans la journée, donc ne pas parler tout le temps. Même par exemple, du coup, pendant les récréations, on a envie éventuellement de discuter avec ses collègues, on a envie d'avoir du lien social. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la prévention vocale, quand on a déjà 8 heures, par exemple, de parole par jour, il faut arriver à se discipliner un peu aussi et s'économiser. Le fait de réduire sa consommation de tabac, d'alcool, voilà, des conseils sur ne pas porter des vêtements trop serrés, sur sa posture, etc. Ce sont donc des conseils d'hygiène vocale qu'on va donner dans des formations de prévention, mais qui sont quand même difficiles souvent pour les gens à mettre en place et à tenir surtout sur la longueur. Et on se rend compte de plus en plus que ce qui est plus durable et plus finalement efficace en termes de prévention, c'est plutôt des conseils qui sont liés à des techniques de communication et qui vont du coup vraiment pouvoir être mis en place dans la situation. Donc, par exemple, encore une fois, ça paraît peut-être être des conseils vraiment comme des portes ouvertes enfoncées, mais par exemple, se rapprocher, par exemple, des élèves pour leur parler plutôt que d'élever la voix tout le temps. Voilà, c'est une économie déjà. Et quand on pratique ça jour après jour dans sa classe, en fait, ça va vraiment apporter des bénéfices finalement plus efficace que des fois se contraindre sur toutes les autres conseils d'hygiène vocale dont j'ai parlé juste avant. Pareil, du coup, sur par exemple mettre en place une pédagogie qui va être un petit peu plus, par exemple, participative ou active pour les élèves et du coup qui va permettre de réduire le temps de parole chez l'enseignant. Ça aussi, du coup, c'est des choses qui vont avoir un grand impact rapidement en fait sur l'état vocal, tout simplement en réduisant le temps de parole, la charge vocale. Pareil, des conseils sur par exemple la prise de parole en environnement bruyant, parce que les profs sont quand même très sujets au bruit ambiant dans les classes, notamment avec certaines acoustiques de salles qui sont pas toujours appropriées, le fait qu'ils ont pas d'amplification vocale quand ils sont en primaire, secondaire. Tout ça fait que du coup ils vont avoir tendance à souvent surenchérir sur le bruit et leur apprendre des techniques de communication pour finalement non pas chercher à gérer leur voix mais en fait gérer le bruit, en fait chercher à attendre le silence ou chercher finalement des techniques de gestion de classe qui permettent de réduire le bruit. Voilà, tout ça c'est finalement plus efficace après finalement sur la prévention des troubles de la voix.
Oui, c'est très intéressant de mettre en place toutes ces stratégies-là. C'est vrai que moi, j'avais une jeune femme qui était venue pour des cours de chant et elle avait une toute petite voix parlée et elle me disait qu'elle avait beaucoup de cours. Donc je lui avais demandé si elle voulait aussi qu'on travaille sur l'amplification de la voix, là, pour utiliser sa voix parlée pendant les cours. Et elle m'avait dit, ah non, pas du tout. S'il commence à y avoir un petit peu de bruit, je fais exprès de parler encore plus bas, comme ça les élèves intéressés interviennent et demandent aux autres de se taire. Mais après, c'est vrai qu'elle avait des élèves adultes.
Oui, voilà, ça dépend, c'est ce que j'allais dire, ça dépend de l'âge, hein, je pense. Et puis même en amphi, moi ça m'est déjà arrivé de pratiquer cette technique-là face à un amphi, on peut avoir des grands moments de solitude parfois, mais ça finit par marcher, mais des fois c'est long.
Mais après, je me disais, pour les enseignantes en maternelle ou au primaire, comme on peut pas modifier l'acoustique des salles, ça reviendrait trop cher, mais que de nos jours, on utilise de plus en plus la technologie, est-ce que ce serait pas bien d'utiliser des micro-casques pour amplifier leur voix et qu'elles puissent être libres de leurs déplacements avec les jeunes enfants?
Bah, ça, c'est effectivement une question qui vient de plus en plus en débat.
Oui.
Du coup, il y a pas mal de recherches scientifiques qui ont été menées ces dernières années là-dessus.
D'accord.
Et encore plus, là, du coup, ça revient un petit peu dans le débat avec le port du masque maintenant, la pandémie. Et du coup, le fait que, par exemple, un petit micro-casque pourrait être tout à fait incorporé, par exemple, à l'intérieur du masque, il serait presque invisible et permettrait aussi, du coup, de pallier les problèmes accrus que certaines enseignantes, je dis enseignantes, mais il y a des enseignants aussi, rencontrent.
Mm-mm.
Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques où la personne porte un petit micro-casque qui, du coup, est relié à, par exemple, des enceintes en HF qui vont être, du coup, reliées à des enceintes dans la salle. Et du coup, les enceintes sont toujours au même endroit. Enfin, un peu comme, tu vois, dans un concert, soit effectivement un prof de fac. Ça peut être très bien adapté parce que finalement, le public, entre guillemets, ou enfin la classe est face au professeur. Et du coup, les enceintes vont toujours, on va dire, dans le bon sens. Après, des fois, c'est peut-être effectivement moins adapté pour des professeurs qui sont en premier degré ou en second degré, qui bougent beaucoup dans la classe.
Mmh.
Et là, du coup, il y a un autre système qui peut être employé. C'est celui donc d'un micro-casque, mais cette fois relié à un petit haut-parleur qui est placé sur la poitrine ou sur le ventre de la personne. Donc là, du coup, la personne se balade, entre guillemets, avec son petit dispositif. Alors, il se trouve que, en tout cas, les études scientifiques montrent que ces dispositifs sont bien acceptés. C'est-à-dire, non seulement ils sont relativement efficaces, effectivement, pour la réduction de la charge vocale, mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ça altère la communication et la relation avec les élèves, quoi. Est-ce que ça paraît complètement bizarre et que voilà, ça freine la communication? Ouais, manifestement, il semblerait que ce soit quand même bien accepté. Pour l'instant, moi, j'ai envie de dire, mais là, c'est d'un point de vue personnel, que quand il y a des enseignants qui ont des problèmes avérés,
oui.
Donc, ils sont déjà en train de faire un travail sur leur voix parce qu'ils ont déjà un nodule qui s'est développé ou ce genre de choses. Alors là, oui, je soutiens vraiment beaucoup ce type de dispositif pour permettre justement à la personne de retrouver un geste vocal plus doux et de sortir de son cercle vicieux du forçage. Du coup, là, oui, ça peut vraiment aider et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Pareil aussi quand la personne sort d'une opération de ses cordes vocales et que du coup, il faut qu'elle ait une phonation très douce plutôt que de chuchoter, par exemple.
Oui, c'est très mauvais, oui.
Qui finalement a été montré qu'il était mauvais, voilà.
Mm-mm.
Vaut mieux finalement qu'elle murmure, enfin, ou qu'elle soit à une phonation très faible, mais avec une amplification. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Par contre, pour une personne qui n'a pas de trouble de la voix avéré, qui arrive quand même à gérer la situation jusque-là comme ça avec sa voix, j'aurais quand même plutôt tendance un peu déconseiller, c'est-à-dire peut-être vaut mieux continuer à essayer d'agir sur les choses dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire les techniques de gestion de classe, réduire le bruit,
oui.
Essayer d'avoir une pédagogie plus active, etc., faire participer les élèves. Et j'aurais plutôt tendance à dire d'aller plutôt vers ces choses-là que vers avoir un système palliatif, entre guillemets.
Par rapport à ces systèmes palliatifs, là, si tu as la réponse, hein, est-ce que les enseignants peuvent se les procurer d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils doivent faire une demande à l'école et ça doit être validé, accepté?
Je ne sais pas avec précision, mais je te réponds comme ça. A priori, ça s'achète sur n'importe quel magasin ou magasin en ligne, pour ne pas citer de nom. Par contre, au niveau des autorisations, je pense que vraiment, ça pose aucun problème pour un professeur. Alors peut-être qu'il vaut mieux effectivement qu'il en parle à son inspecteur d'académie, mais honnêtement, ça pose aucun problème parce que c'est pas des systèmes d'enregistrement. C'est des systèmes d'amplification. Tu vois, si c'était des systèmes d'enregistrement, là, il y aurait des problèmes, effectivement, de droit. Voilà, mais là, en fait, non, ça pose, à mon avis, aucun problème.
D'accord. Pour les enseignants de langues plus glottiques, comme les professeurs d'espagnol ou les professeurs d'arabe, est-ce qu'ils ont davantage tendance à avoir un forçage vocal ?
C'est une question intéressante parce que moi, je me suis souvent demandé, pareil, si, par exemple, dans certaines langues, même sans parler des professeurs de langue, mais même dans les locuteurs, de façon générale, de certaines langues,
oui,
il y avait davantage de troubles de la voix, notamment, par exemple, comme tu dis, en arabe ou en anglais, où il peut y avoir justement des consonnes un peu glottiques. Du coup, on pourrait éventuellement s'attendre à ce qu'il y ait peut-être un forçage accru. Et puis aussi, il n'y a pas que les sons de la langue eux-mêmes, il y a aussi après le timbre de la voix qui est associé à certaines cultures. Dans les cultures méditerranéennes, on sait que la voix est produite à plus forte intensité que, par exemple, plutôt dans les cultures du nord de l'Europe, où, par exemple, on voit aussi l'anglais américain, par exemple, qui est produit avec une voix qui est, du coup, avec un degré de nasalité. Pas nasalité d'un point de vue physiologique, mais en tout cas, l'aspect un peu qu'on appellerait en anglais twangy, enfin, donc un peu nasillard, un peu brillant, et qui est lié, du coup, aussi à la zone épilaryngée, donc à une petite constriction du conduit vocal au-dessus du larynx. Du coup, ce timbre-là, par exemple, c'est un timbre qui est vraiment efficace, quoi, en termes de projection vocale à distance ou de passage d'émergence par rapport à un bruit de fond. C'est hyper efficace. Donc, on pourrait s'attendre au contraire à ce que ces cultures-là ou ces langues-là montrent moins, par exemple, de troubles de la voix. Mais malheureusement, il n'y a pas encore, pas à ma connaissance, de travaux disponibles sur la question. Aussi, pour la bonne raison, que ça soit au niveau de la sécurité sociale ou des mutuelles, en fait, on ne peut pas vraiment avoir ces données, par exemple, sur les raisons, par exemple, d'un arrêt maladie d'un enseignant, par exemple. On n'a pas le droit de connaître les raisons, par exemple, d'un arrêt de maladie. Donc, du coup, c'est difficile de tracer d'un point de vue épidémiologique, de recenser le nombre de cas, etc., par pays.
D'accord.
Voilà. Mais donc, effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été montré que certaines matières dans l'enseignement secondaire qui, effectivement, prédisposeraient davantage à des troubles de la voix, par exemple, l'enseignement du sport ou l'enseignement de la chimie.
Oui.
Voilà, du coup, avec toutes les vapeurs éventuellement irritantes, etc., ces matières-là, en tout cas, prédisposeraient au développement de certains troubles de la voix. Mais par contre, voilà, sur les différentes langues, par contre, j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas vu d'études là-dessus. Mais ça serait très intéressant.
Est-ce que la pratique vocale complémentaire, par exemple du chant ou du théâtre, peut aider les enseignants pour créer un assouplissement, une tonicité, ou est-ce qu'au contraire, c'est une charge supplémentaire pour la voix ?
Ben, les deux, mon capitaine. Donc, on va dire que, de façon générale, le travail de la voix, c'est toujours bénéfique. Ne serait-ce que, déjà, avoir par exemple une bonne respiration, qui est donc plutôt une respiration abdominale diaphragmatique plutôt qu'une respiration thoracique haute, par exemple. Bon, ça, c'est déjà la base, entre guillemets, de n'importe quelle technique vocale chantée ou actée. Et ça, vraiment, ça peut n'être que bénéfique à tout un chacun, en fait. Après, pareil, travailler son mécanisme 2, par exemple, sa voix de tête, du coup, en chant, va pas forcément aider complètement à parler, parce que finalement, c'est deux mécanismes vocaux un peu différents.
Le mécanisme 2, je m'en sers que pour appeler.
Voilà.
Il est plus facile pour moi qui suis soprane que le mécanisme 1 pour appeler. C'est plus sonore, c'est plus naturel.
Voilà, mais on pourrait avoir envie, mais c'est vrai que, en tout cas, après, des fois, dans certaines circonstances, même si techniquement, on se sentirait plus à l'aise d'une certaine façon qu'on a appris en chant lyrique, par exemple, ça va pas forcément être applicable à la voix parlée parce que le timbre n'est pas approprié par rapport à notre culture. On va sonner un peu hystérique ou un peu... un peu bizarre, quoi. Et donc, on va pas forcément oser le mettre en place, même si d'un point de vue efficacité, ça se traite très bien et qu'on se sentirait très à l'aise comme ça. Mais voilà, ça va pas le faire.
Mais après, au niveau de tout ce qui est travail de résonance, de sentir où se place le son.
Donc là-dessus, ça, je suis aussi d'accord. Effectivement, toute cette prise de conscience, du coup, bah, par exemple, travailler un peu la projection dans le masque et sans en arriver forcément à une voix ultra nasale comme certains Américains, très très twangy, très brillante. Malgré tout, aller dans ce sens-là, donc aller quand même dans le sens d'une résonance, d'une recherche de résonance et d'une recherche de brillance un peu dans la voix, ça aussi, ça peut être que bénéfique de toute façon pour la voix chantée, pour la voix parlée, etc. Après, donc du coup, la chose que j'aurais envie de dire, c'est plutôt que lorsque le travail vocal ou les répétitions ou les cours de chant ou les cours de théâtre se font à des moments de l'emploi du temps qui sont compatibles avec la charge vocale de l'enseignant, bah alors là, c'est super, faut y aller, c'est très bien. Par contre, si la répétition se met justement sur une soirée qui suit déjà une journée très intense vocalement, qui a en plus de ça encore une journée très intense qui suit, bah là, en fait, bah non. C'est-à-dire, effectivement, le chant ou le théâtre va être finalement une charge vocale supplémentaire qui va, du coup, plutôt amener de la fatigue supplémentaire et un risque accru plutôt que d'amener des bénéfices. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut juste le concilier avec l'emploi du temps pour ménager un repos vocal qui est nécessaire, très 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 nécessaire pour les enseignants, parce que quand on fait 8 heures, 10 heures de parole par jour, c'est extrêmement important d'avoir le repos qui correspond, quoi.
Oui, moi c'est vrai que j'en ai pas eu énormément des enseignants, et quand j'en ai eu, c'était des personnes qui aimaient chanter, qui avaient envie justement de travailler leur voix parlée, mais beaucoup leur voix chantée, et puis pour certaines de chanter en classe, pour celles qui avaient des élèves assez jeunes. Et c'est vrai qu'elles ne venaient jamais en fin de journée après des cours, c'était toujours sur leurs jours de repos ou leurs vacances.
Après, là c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai observé chez les enseignantes du premier degré, donc primaire maternelle, c'est que justement parmi les situations les plus à risque dans leur journée de travail, il y a effectivement aussi ces moments, par exemple, d'enseignement de la musique, ou alors, si c'est pas enseignement de la musique, c'est juste de comptines ou de chant. Et pour certaines d'entre elles qui, effectivement, ne sont pas forcément des chanteuses nées, ça peut être un moment, finalement, de grande tension, de grand forçage, en fait. Parce que, notamment, par exemple, c'est vrai que les chansons d'enfants sont souvent avec une hauteur très élevée.
Adaptées à des enfants, mais pas forcément à elles.
Voilà. Du coup, elles vont pas l'apprendre à leur tessiture, elles vont pas l'apprendre à un niveau confortable, mais elles vont se greffer sur le playback de la chanson et du coup se retrouver dans une tessiture qui est pas appropriée. Du coup, ça, j'ai remarqué effectivement que ça pouvait être un moment quand même effectivement de risque accru dans leur journée. Bon, c'est pas toute la journée, mais bon, ça peut suffire quand même à les mettre dedans pour la suite, quoi. Donc effectivement, venir travailler avec un coach vocal, ne serait-ce que pour prendre conscience de bah, où se situe leur tessiture, et puis bah, peut-être justement ne pas forcément utiliser le playback, ou au contraire, bah, mettre que le CD, mais ne pas chanter elle-même, ou je sais pas, enfin... trouver en tout cas des solutions et puis travailler un petit peu effectivement leur voix à cette occasion-là, ça peut être effectivement une bonne chose.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien de savoir qu'il y a des formations qui sont possibles pour les enseignants.
Voilà, bah, du coup, il n'y en a pas forcément organisé par toutes les académies, mais en tout cas, la MGEN propose effectivement beaucoup de formations, donc il faut se renseigner, mais il y a déjà beaucoup de contenu en ligne qu'on peut trouver, des brochures d'information, des tutos aussi vidéo en ligne, et puis il y a des formations carrément du coup organisées par la MGEN. Après, donc il y a certaines académies, donc pas toutes, qui aussi commencent à développer des formations par exemple qui s'appellent corps et voix ou corporalité, etc., donc qui incluent souvent pas seulement le travail de la voix, mais un peu voilà tout ce qui est communication non verbale. Donc ça peut être voilà un point d'entrée dans la prise de conscience sur sa voix, et puis ensuite quitte à éventuellement pousser cela ensuite avec un coach vocal.
D'accord. Et tes recherches ont porté notamment sur le mécanisme 3, le registre le plus élevé de la voix humaine que nous avons naturellement lorsque nous sommes enfants, la voix de sifflet.
Voilà, donc bah, la voix de sifflet, c'est vraiment une voix particulière, c'est vraiment le suraigu vraiment de la voix. Donc voilà, comme si on imite une petite souris, voilà. Comme ça, donc voilà, ça c'est le type de voix qui correspond à la voix de sifflet. Alors là, c'est de façon non travaillée, entre guillemets, mais du coup, chez des chanteuses lyriques, comme notamment les chanteuses coloratour, mais aussi du coup des chanteuses plus techniques contemporaines, comme bah, du coup Maria Carré notamment. voilà, on peut retrouver ce mécanisme dans le suraigu pour faire des ornements, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc c'est un mécanisme qui est pas forcément très courant, qui est un tout petit peu plus des fois pour des ornements ou des vocalises, mais du coup qui fascine un peu parce que justement il est plus forcément présent chez tout le monde après l'enfance. Donc il y a certaines personnes qui le conservent, d'autres qui ne le conservent pas, et c'est encore un peu mystérieux les raisons pour lesquelles on le garde. Il y a quand même des pistes qui montrent par exemple qu'il y a des ajustements articulatoires et des ajustements donc qu'on appelle résonantiels, c'est-à-dire des ajustements de notre conduit vocal qui permettent du coup à ceux qui le conservent et qui savent le produire en tant qu'adulte de le produire, donc notamment des ajustements au niveau de la mâchoire et de la langue qui permettent en fait d'ajuster, enfin donc je vais utiliser des termes un peu techniques, après je peux revenir un peu de façon plus vulgarisée dessus, mais qui permettent d'ajuster donc la fréquence de la deuxième résonance de notre conduit vocal, de notre deuxième formant, des fois pour ceux qui sont phonéticiens qui connaissent, sur du coup la fréquence de vibration de nos cordes vocales. Et ça c'est quelque chose qu'on observe chez tous ceux et celles surtout qui sont capables de produire cette voix de sifflet. C'est quand même une piste qui orienterait vers le fait que peut-être ceux qui ont réussi à conserver le mécanisme de sifflet sont peut-être des personnes qui ont réussi à trouver d'une certaine façon cet ajustement résonantiel. Après, du coup, la question se pose de savoir si on enseignait cette technique, entre guillemets, intuitive, mais si on l'enseigne, par exemple, des jeunes adolescents au moment de la mue, est-ce que justement ils vont être aussi capables, du coup, de conserver ce mécanisme si on leur enseigne? Voilà, c'est une question, mais qu'on connaît pas encore la réponse. En tout cas, cet ajustement pourrait peut-être être une piste de pourquoi certains le conservent et d'autres non.
Et au niveau de l'ajustement, je veux bien, oui, que tu vulgarises hein, pour les auditeurs en expliquant.
Ouais. Alors, donc notre conduit vocal. Donc le conduit vocal, c'est le tube globalement qui va de notre larynx jusqu'à nos lèvres. Donc on peut aussi considérer qu'il y a le conduit nasal qui est couplé aussi à ce conduit oral. En tout cas, c'est tout cet ensemble de cavités qu'il y a entre le larynx et les lèvres et les narines qu'on appelle le conduit vocal. Et ce tube, ça va être d'un point de vue acoustique, un résonateur, c'est-à-dire que comme n'importe quelle cavité ou n'importe quelle salle, eh bien, il va présenter des résonances. Par exemple, dans une salle, dans une cathédrale, dans une salle de bain, vous allez pouvoir sentir certaines fréquences qu'on appelle les fréquences de résonance, où du coup, la cavité va particulièrement amplifier les sons. Par exemple, si on prend une cavité toute simple, par exemple une petite bouteille, voilà, une bouteille de bière par exemple, et que vous soufflez dedans, eh bien, il va y avoir souvent une note qui sort quand on souffle dans la bouteille.
Oui.
Eh bien, cette note, elle correspond à la fréquence de résonance de cette cavité. Donc, si par exemple je remplis beaucoup la bouteille, alors la cavité, c'est la cavité vide, donc c'est ce qui reste d'air qui peut vibrer dans la bouteille, et du coup, cette masse d'air, elle est plutôt petite, et donc la note qui va sortir sera plutôt élevé, sera de fréquence aiguë. Au contraire, si je vide ma bouteille et que ma bouteille du coup est complètement vide, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de masse d'air qui peut vibrer dans la bouteille, et du coup le son qui va en sortir va être plutôt grave, avec une fréquence grave. Donc voilà, et donc nous, notre conduit vocal, c'est pareil en fait, c'est aussi comme une bouteille qui va présenter des fréquences de résonance. On a globalement 5 fréquences de résonance en dessous 5 kHz, et puis du coup en bougeant notre langue, en bougeant notre mâchoire, en bougeant nos lèvres, on va pouvoir modifier la taille, le volume de nos cavités de résonance, et ça va pouvoir justement bouger un petit peu ces fréquences de résonance, comme si on désemplissait ou qu'on vidait ou qu'on remplissait la bouteille. Et donc le chanteur ou l'acteur ou n'importe quel orateur, lorsqu'il parle, il va évidemment produire des consonnes, des voyelles. Donc là, il y a effectivement du coup les cavités de résonance qui bougent avec les mouvements articulatoires, et donc non seulement ça va permettre de faire les différentes voyelles, quand on fait A, I, U, justement, pourquoi on reconnaît ces différentes voyelles? C'est parce qu'elles ont des fréquences de résonance du conduit vocal associées différentes, et donc c'est ce qu'on entend. En tant qu'auditeur, on entend ces renforcements énergétiques dans le son autour de ces cavités de résonance, mais aussi, du coup, on va quand même varier un tout petit peu autour de ça. Quand on fait un A, on peut le faire plus ou moins ouvert, on peut le faire plus ou moins avec un placement de voix vers l'avant, vers l'arrière, voilà. On peut faire oh ou ah, enfin voilà, c'est un A, mais c'est quand même différent. Et du coup, ça, c'est lié à des mouvements articulatoires, du pharynx, de la langue, de la mâchoire, qui vont permettre d'ajuster légèrement ces fréquences de résonance. Et on observe que chez des chanteurs non seulement experts, mais aussi chez tout un chacun, eh bien, les gens vont avoir tendance à articuler d'une façon telle que la fréquence de leur première résonance, notamment, et parfois de leur deuxième résonance, va être précisément ajustée sur soit la fréquence de vibration des cordes vocales, soit ce qu'on appelle un harmonique, c'est-à-dire un multiple de la fréquence de résonance des cordes vocales. Donc, par exemple, si je parle concrètement, que je suis une chanteuse lyrique et que je commence à faire mon passage aigu, par exemple vers le La 440, et puis je monte, juste par exemple au contrut, eh bien, en fait, on observe que les chanteuses, donc les sopranes, vont avoir donc la bouche qui va, comment dire, s'ouvrir de plus en plus dans l'aigu. Et le fait d'ouvrir de plus en plus leur bouche dans l'aigu, ça leur permet précisément de contrôler la fréquence de cette première résonance du conduit vocal. Donc plus on ouvre la bouche et plus cette fréquence de résonance va aller vers les fréquences aiguës. Et donc de cette manière, du coup, la chanteuse va être capable, sans en avoir vraiment conscience, hein, sans être vraiment consciente de ça, mais elle est en train en fait d'ajuster la fréquence de sa première résonance du conduit vocal sur la fréquence de vibration de ses plis vocaux. Donc par exemple, quand je disais elle commence à La 440, ben la première résonance va être en même temps à 440. Puis ensuite, elle va faire par exemple un Do à pas loin de 500 Hz, et bien du coup, sa fréquence de sa première résonance, elle aussi va suivre et va être à 500 Hz, etc., etc., jusqu'à par exemple le contrut, où là, du coup, bah, sa bouche va être extrêmement ouverte. Et ça va avoir, du coup, ça va permettre d'avoir une fréquence de la première résonance qui va être pas loin, justement, elle aussi, des 1000 Hz. Et là, du coup, bah, y a un problème, c'est que on peut plus ouvrir plus la bouche. Donc, la chanteuse peut pas ouvrir infiniment non plus la mâchoire et la bouche. Et c'est là, du coup, que se fait la transition vers la voix de sifflet chez certaines chanteuses, où là, du coup, la chanteuse va être obligée de changer de stratégie articulatoire. Et du coup, là, c'est plutôt la langue qui va venir ajuster du coup la fréquence de la deuxième résonance, et donc plus la langue va être vers l'arrière, plus la deuxième résonance va être en basse fréquence, et plus la langue va être vers l'avant, plus ça va faire monter la fréquence de la deuxième résonance. Donc ce que la chanteuse va faire, c'est qu'elle va mettre la langue de plus en plus vers l'avant, en plus d'avoir la mâchoire extrêmement ouverte. Et ça va lui permettre, du coup, cette fois, d'ajuster la deuxième résonance de son conduit vocal sur la fréquence de vibration de ses cordes vocales. Et c'est ça qu'on observe dans la voix de sifflet.
C'était très intéressant. Et la langue, donc, à plat.
C'est ça. Alors, la langue à plat, mais de plus en plus vers l'avant. Mm-mm. Parce que, du coup, la deuxième résonance, elle est contrôlée pas tellement par la hauteur de la langue, mais plutôt par le mouvement d'avancée ou de recul de la langue dans la cavité orale.
Et oui, j'avais entendu dire que la voix de sifflet était difficilement observable en laboratoire.
Bah, c'est vrai que, alors, c'est surtout qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui la montrent. Alors, là-dessus, donc, il y a mon point de vue de scientifique, on va dire, puis mon point de vue plus personnel.
Oui.
Mais d'un point de vue personnel, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense en fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont une voix de sifflet que ce qu'on ne le pense. Parce que en fait, moi, ce que j'ai pu observer dans mes mesures, c'est que la voix de sifflet chez beaucoup de femmes commence beaucoup plus bas que ce qui est reporté en fait dans certains manuels pédagogiques ou même dans certains articles scientifiques, et qu'il y a, je dirais, un tiers des femmes soprane, donc je parle pas des altos, hein, je parle des sopranes, mais un tiers des sopranes,
oui,
qui globalement ont une voix de sifflet qui commence à partir du deuxième passage, c'est-à-dire à presque aussi bas que le do, ré du haut de la clé de sol. Donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de sopranes plutôt légères qui vont faire leur passage, donc qu'elles ressentent comme passage, comme deuxième passage.
Oui.
C'est vraiment le passage vers la voix de sifflet. Donc ça donne une voix assez légère que bah, beaucoup de pédagogues vont penser être pas soutenue, entre guillemets, pas en pleine puissance et du coup assez légère, assez détimbrée des fois.
Mm-mm.
Mais en fait, ce qu'on observe au niveau des mesures laryngées, c'est vraiment qu'il s'agit vraiment du mécanisme de sifflet chez un tiers de ces chanteuses. Donc du coup, on pense souvent qu'il n'y a pas beaucoup finalement de personnes qu'on peut recruter en laboratoire pour observer leur voix de sifflet. Mais en fait, il y a quand même finalement presque un tiers des sopranes qui montent cette voix de sifflet, mais finalement plus bas que ce qu'on pense. Après, effectivement, le nombre de personnes qui sont capables de produire des sons au-delà du contrut, c'est un peu plus rare. Il n'y en a pas beaucoup. Mais là, on est sûr, on va dire, une fois que les sons sont au-dessus du contrut, on est globalement sûr qu'il s'agit de la voix de sifflet. Mais en réalité, il y a quand même aussi une grande part des chanteuses qui peuvent produire une voix de sifflet légère en dessous du contrut, on va dire une octave en dessous, quoi.
On va écouter un extrait de L'air des clochettes de Delib par Sabine Devielle.
Est-ce que ça a été observé uniquement sur des sopranos de type léger coloratour dans du chant lyrique ou ça a été observé sur différents types de voix ?
Pour ma part, moi j'ai mené des recherches sur cette voix de sifflet que à partir de voix qui étaient plutôt connotées classiques ou lyriques, mais avec différents degrés d'expertise. Donc j'ai quand même pu observer des chanteuses amateurs, hein, par exemple dans des chorales d'université.
Oui.
C'est pas forcément des sopranes ni professionnelles ni semi-professionnelles. Donc, qui montrait cette voix de sifflet, par exemple, donc que ça soit donc dans au-dessus du deuxième passage ou au-dessus du contrut, puis aussi bah, donc des chanteuses vraiment professionnelles. Mais dans tous les cas, c'est vrai que celles que j'ai étudiées, elles étaient plutôt, on va dire, de tradition ou d'enseignement plutôt classique. Voilà. Après, du coup, c'est un mécanisme qui est encore peu étudié.
Oui.
C'est vrai que souvent, la littérature scientifique a souvent concerné en priorité la technique classique lyrique. Heureusement, voilà, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de travaux maintenant sur les autres techniques vocales plus contemporaines, comme voilà, le belting, le jazz ou les musiques du monde.
Mm.
Donc voilà, donc ça, il y a de plus en plus de données qui ont été apportées et d'ailleurs souvent comparées finalement à cette sorte de référence qui est supposée être la technique vocale lyrique. En tout cas, d'un point de vue scientifique, c'est vrai que la technique vocale lyrique a été celle qui a été étudiée en premier et donc souvent considérée comme un peu la référence de comparaison.
Et est-ce qu'il y a des exercices que tu préconises pour accéder ou travailler sa voix de sifflet ?
Alors, avec toute la précaution liée au fait que je mets ma casquette de scientifique et que je suis pas pédagogue ni coach vocal.
Oui.
Donc, je vais dire par rapport à mes recherches. Donc, ce que je vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, le fait qu'on observe que toutes les chanteuses, en tout cas, qui présentent cette voix de sifflet, elles présentent aussi tout cet ajustement résonantiel. Donc, soit de leur première résonance sur la fréquence de vibration de leur corde vocale, soit de leur deuxième résonance sur la fréquence de vibration de leur corde vocale. Dans tous les cas, il y a un ajustement résonantiel chez toutes les personnes qui présentent la voix de sifflet. Donc, j'ai envie de dire, ça me paraît assez clair que c'est un point d'entrée, peut-être, du coup, soit pour le consolider, soit pour éventuellement peut-être le retrouver, de peut-être déjà travailler, du coup, cette recherche de résonance. Donc, du coup, par peut-être des glissando autour de la fréquence, enfin, autour du passage, du deuxième passage. Du coup, peut-être essayer de pas chercher la puissance vraiment dans cette transition vers le deuxième passage, donc de pas forcément vouloir étendre la voix qu'on a en dessous du deuxième passage vers le haut, mais essayer effectivement de trouver, peut-être par des petits glissando un peu légers, essayer d'explorer vers l'aigu, donc sans forçage, parce que finalement, la voix de sifflet chez les personnes qui le montrent, c'est vraiment une voix qui est pas produite avec beaucoup de pression sous-glottique, donc pas avec beaucoup d'expiration, pas avec beaucoup d'efforts en fait. Donc si vraiment vous ressentez tout de suite une tension ou beaucoup d'efforts, c'est que c'est pas bon, c'est que a priori vous êtes pas dans cette voie-là et aussi que vous risqueriez de vous faire mal. Donc surtout jamais forcer, mais peut-être effectivement essayer de faire des petits glissandi, peut-être en cherchant des sortes d'imitations, justement comme on disait tout à l'heure par exemple là quand on faisait la voix de la petite souris par exemple.
Ouais, la petite souris, le chien.
Voilà, c'est ça. Où, moi, des fois, avec mes sujets d'expérience, les participantes à mes études, je leur parlais de la voix quand on voit un cafard, quoi. C'est Voilà, donc ça permet peut-être des fois par l'aspect émotionnel de trouver par imitation ou par voilà mise en situation éventuellement un type de voix qui est pas la voix parlée, qui est pas forcément toujours la voix comment dire, qui est pas non plus la voix chantée éventuellement que on a l'habitude de faire. Et peut-être que du coup par ces petites voilà ces petites mises en situation, ça permet d'y accéder
et de sentir la résonance.
Voilà.
Et où est-ce que ça se situe. Alors avant l'enregistrement du podcast, j'ai ouvert une FAQ sur mes réseaux sociaux par rapport au sujet de la voix de fossé et des techniques vocales à forte intensité.
Super.
Donc, si tu es d'accord, je vais te les poser.
Je suis très curieuse, effectivement, de voir quelles sont les questions que les gens se posent sur ce mécanisme. Alors, je t'écoute.
J'ai eu essentiellement des questions de chanteurs de musique actuelle, un baryton qui a pris plusieurs cours de chant à distance avec une coach spécialisée dans la technique de la voix de sifflet en musique actuelle. Et elle lui faisait travailler les notes les plus extrêmes en inspirant.
Ouais.
Puis il devait essayer de les faire en expirant, donc comme quand on chante normalement. Mais il me dit que ça fait longtemps qu'il travaille maintenant, ça fait plusieurs années qu'il travaille sa voix de sifflet, mais qu'il n'arrive à le faire qu'en expirant.
Alors attends, qu'en inspirant. Ah oui, donc en ingressif quoi, des sons ingressifs. Alors bon, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait qui montrent la voix de sifflet. Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes en général qui la conservent, mais alors encore moins les hommes. Pourquoi est-ce que dans la voix donc ingressive, c'est-à-dire quand on inspire, c'est peut-être parce que du coup, il y a peut-être d'autres structures qui sont impliquées dans son mode de vibration là, ou alors que du coup, il arrive à pas forcément avoir vraiment d'accolement des plis vocaux lorsqu'il fait ce type de phonation. Donc, il y a peut-être effectivement juste une modulation du débit d'air par vibration très très superficielle des plis vocaux. Est-ce que c'est de la voix de sifflet pour autant? Enfin, c'est-à-dire, il arrive certainement à produire les notes, voilà, qui sont très aiguës. Mais est-ce que d'un point de vue de la vibration laryngée, ça correspond à de la voix de sifflet? J'aurais tendance à dire que non, en fait. Donc, voilà, je suis pas sûre, du coup, malheureusement, que ce baryton soit peut-être pas capable, en fait, de produire la voix de sifflet, quoi. Il arrive à produire ces notes-là, mais je pense que, voilà, s'il arrive pas à le faire en expiration.
Alors, j'ai l'impression que oui, puisqu'il m'a envoyé des vidéos.
Ok.
Je comprenais pas quoi c'était que de cette façon-là. Est-ce qu'il allait arriver un jour à le faire en expirant? Et c'était assez flou pour lui, voilà.
Ouais, alors, après, c'est vrai que dans les musiques actuelles, la voix de fossé, la voix, donc ce qu'on appelle la voix de tête chez les femmes, ou la voix de fossé chez les garçons, c'est effectivement très utilisé en musique actuelle.
Oui.
Et ça, normalement, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire, tous les hommes ont accès à leur registre de fossé avec du travail.
Mm-mm.
Par contre, effectivement, je suis pas forcément certaine que tout le monde puisse avoir accès à la voix de sifflet, par contre. Et même avec du travail, voilà, je suis pas forcément persuadée.
Mm-mm.
Je sais pas si c'est forcément, enfin, comment dire, bien ou utile de forcément chercher finalement quelque chose vraiment qui nous est pas accessible, en fait.
Un mash-up du chanteur Dimash Kudenbergen.
J'avais une autre question. Est-ce normal de sentir que ça tire un petit peu, que ça travaille en le faisant? Ça ne fait pas mal, ça ne me fait pas tousser, mais je sens que ça travaille.
Alors, donc, a priori, ce qu'on observe en voix de sifflet, c'est que, donc, pour arriver à faire des sons très aigus comme ça, eh bien, il faut que les plis vocaux, les cordes vocales, soient extrêmement allongées. Parce que, du coup, pour varier la hauteur de notre voix, en fait, on a deux modes, globalement, deux actions possibles. C'est soit par la masse des plis vocaux et leur contraction. Ça, c'est ce qui se passe notamment quand on est dans la voix de poitrine. On va varier notre fréquence fondamentale. enfin dans notre hauteur de voix, en contractant le muscle qui est à l'intérieur des plis vocaux. Et quand on est au-dessus, donc plutôt en voix de tête et en voix de sifflet aussi, le mode pour varier la hauteur de notre voix, c'est plutôt l'allongement des plis vocaux, du coup une petite bascule d'un cartilage, voilà, qui permet du coup d'allonger les plis vocaux. Et dans la voix de sifflet, du coup, on a les plis qui sont vraiment extrêmement allongés, les plus allongés qu'on puisse faire. Donc la sensation de, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas de serrage justement, la sensation que ça tire un petit peu, ça peut-être lié à vraiment cet allongement extrême des plis vocaux. Après, voilà, je connais personne qui se soit fait une élongation ou un claquage, au sens des autres muscles ou des autres ligaments du corps. Les risques pour la voix qu'on peut encourir, c'est plutôt des risques liés à la collision ou au frottement des plis vocaux. Donc quand on parle trop fort ou avec des modes de phonation qui sont en malmenage, mais en tout cas je connais personne qui se soit élongué, qui fait un claquage de la corde vocale. Donc je pense que effectivement cette sensation là, si c'est vraiment des plis qui sont vraiment extrêmement étirés, et ça me semble pas grave, pas dangereux. Enfin, pour ma part, alors si je mets ma casquette du coup personnelle et pas ma casquette de chercheuse, donc quand je pratique ce mode de phonation, je peux effectivement ressentir vraiment quand je suis dans les notes les plus extrêmes de ma tessiture, je ressens effectivement que ça tire un peu, mais à aucun moment ensuite ça affecte ma voix parlée. Ou c'est vraiment sur le moment même, mais j'ai pas du tout de sentiment que ça a des répercussions ensuite sur ma santé vocale.
D'accord. Alors j'avais une autre question, c'était en fonction des jours, l'intensité sonore est extrêmement variable et il y a des jours où ma voix de sifflet est disponible et d'autres non.
Oui, c'est amusant parce que, en fait, là encore, je vais mettre ma casquette personnelle.
Oui.
J'ai été à Faune une seule fois dans ma vie et en fait, ça n'a concerné que mon registre de sifflet.
D'accord.
C'est-à-dire, je n'avais plus de registre sifflet ce jour-là. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose donc qui doit être notamment lié peut-être au gonflement un petit peu des plis vocaux. Si les plis vocaux sont légèrement inflammés, puisque dans ce mode de phonation, ils sont très 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 étirés. Même dans certains cas, ils ne se touchent pas. C'est-à-dire, il y a certaines chanteuses chez qui, du coup, il n'y a plus de contact entre les plis vocaux lors de la vibration. Donc, ça fait vraiment vraiment un sifflement, effectivement, où du coup, il y a une vibration des plis, mais les plis ne se touchent plus. Ou alors, chez d'autres, ils se touchent, mais ils se touchent de façon très brève pendant le cycle de vibration. En tout cas, on peut imaginer, effectivement, que lorsque, pour une raison ou une autre, je sais pas, une affection ORL, ou je sais pas, par exemple, la période de notre cycle menstruel, on sait que ça a une influence aussi sur la viscosité ou l'œdème, entre guillemets, de nos plis vocaux. Eh bien, du coup, on peut imaginer qu'il y ait une certaine inflammation qui fasse que, du coup, la vibration, comme ça, avec des plis très étirés et sur une partie très très superficielle du pli ne soit du coup plus possible. Donc j'expliquerai ça du coup de cette façon-là, plutôt par l'état inflammatoire des plis en fonction des jours ou en fonction des situations.
D'accord. Et j'avais une dernière question qui m'a été posée. Comment récupérer de la fatigue vocale si on sent que l'on a trop forcé sur sa voix après avoir travaillé la voix de sifflet ?
Encore une fois, je ne suis pas ni orthophoniste ni coach vocal, donc je vais dire des choses plutôt que j'ai entendues.
D'accord.
Donc ce que moi on m'a toujours dit, c'est voilà que la meilleure des choses, c'est quand même déjà de mettre au repos. C'est la meilleure des choses pour recouvrer de la fatigue, c'est le repos vocal. Et après, éventuellement, si il doit y avoir une reprise de parole ou rechanter après finalement s'être senti fatigué comme ça. Par exemple, je sais pas, vous avez fait une répétition pendant l'après-midi, puis en fait il y a le concert qui arrive le soir. Bon, le repos vocal va pas pouvoir être totalement possible. Mais du coup, ce qui peut être bien, c'est vraiment de faire des bâillements. Des grands bâillements, de décontracter vraiment toute la zone pharyngée et laryngée, parce que des fois il y a un peu le larynx qui va monter aussi dans ce type de phonation, avec le larynx qui va grimper un petit peu dans les aigus, qui monte, et du coup ça peut engendrer effectivement des tensions dans les muscles extrinsèques du larynx et dans le cou en général. J'aurais tendance à dire bâiller, vraiment faire des sortes de petits glissando descendants, quoi, des des choses comme ça, et puis de bâiller, de se décontracter, de faire des mouvements d'étirement du corps de façon générale, et puis si possible ne plus parler, ne plus chanter jusqu'au spectacle.
D'accord, merci, c'était très instructif, très intéressant.
Merci pour toutes tes questions, puis c'était vraiment chouette de voir aussi les questions là comme ça des internautes.
La voix de sifflet, j'en ai eu beaucoup. C'est vrai que depuis quelques années, il y a un intérêt accru pour cette technique. À bientôt.
À bientôt, Clémentine. Merci.
Merci, Maëva.
La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.
N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclédelavoix.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.